avez pu prendre connaissance du titre. J'ai un peu parodié quelqu'un que vous connaissez. Vous vous souvenez d'Yvon Deschamps et son fameux monologue « Les unions que ça donne ». C'est un peu, c'est là où j'ai puisé un peu mon inspiration pour trouver le titre. Parce qu'en fin de compte, entre parenthèses, on voit c'est quoi le titre, le but des épreuves. Et ce matin, le message de Doug a touché à un certain moment donné aussi aux épreuves, ce qui a été question. Il a posé la question suivante, « Es-tu un diamant brut? » Il avait fait allusion aux périodes difficiles comme chrétiens, aux épreuves qui peuvent survenir dans nos vies. Quelles attitudes on a dans ces moments d'épreuve-là? Nous qui sommes, étant donné que Dieu nous a sauvés, qui veut nous transformer pour être à l'image, à son image, eh bien, des choses qu'il permet dans nos vies qui arrivent, afin justement, comme le mentionnait notre frère ce matin, de nous façonner, nous transformer pour qu'on puisse l'honorer puis le glorifier, comme il en est digne aussi. Alors, premièrement, j'aurais une question. Qui souhaite avoir des épreuves? Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui va lever la main. On ne choisit pas non plus le moment, puis on ne choisit pas les épreuves qu'on va traverser. Puis à première vue, j'ai oublié le PowerPoint. À première vue, ce n'est pas emballant pour personne. C'est sûr, c'est normal. Mais savez-vous que traverser une épreuve, ça peut très bien être, pour nous, croyants, une expérience bénissante, même fortifiante. Même que, sans tourner, Jacques, dans son épître au chapitre 1, mentionnait que même qu'on devrait regarder les épreuves comme un sujet de joie complète. C'est certain que pour nous, regarder une épreuve comme un sujet de joie, bien pour cela, c'est important qu'on ait la bonne perspective par rapport aux épreuves, qu'on ait une bonne compréhension du but et du pourquoi de l'épreuve. Si je vous poserais la question à vous, quelle serait la pire épreuve que vous pourriez avoir à faire face? Il y a certains qui me répondraient sûrement peut-être à perdre tout l'argent que j'ai mis de côté pour ma retraite, pour un voyage. Peut-être pour d'autres, ce serait de perdre son emploi carrément, avec tout ce que ça implique, tout ce que ça peut engendrer, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Peut-être que pour un autre, ce serait d'apprendre que quelqu'un dans la famille ou un proche est atteint tout à coup d'une maladie qui peut mener même jusqu'à la mort, ou qu'un des proches ait un accident, ou que quelqu'un dans la famille se suicide. Peut-être pour d'autres, c'est de se faire voler des choses précieuses. Mais en fin de compte, de toute façon, les épreuves, ça l'affecte puis ça bouleverse n'importe qui. Le livre de Job, au chapitre 5, verset 7, sans tourner, nous rappelle, entre autres, que des périodes d'épreuves, de troubles, sont à toute fin pratique, inévitables pour chacun d'entre nous. C'est dans Job 5, verset 7, où il écrit, « L'homme naît pour souffrir, comme pour l'étincelle pour voler. » Et tous ceux qui essaient de créer un monde, je dirais un monde fantaisiste, un monde utopique, dans lequel tout est parfait, qu'il n'y aura jamais d'épreuve, bien, sont tous voués à être profondément déçus. Parallèlement à ça, il faut dire aussi que d'anticiper les épreuves, c'est-à-dire qu'il faut faire attention pour ne pas être fataliste, tomber et anticiper les épreuves, les voir venir et être toujours sur la crainte. Parce que ce n'est pas très constructif pour n'importe qui, ce n'est pas très édifiant. Ça fait comme jeter un ombre Ça amène des nuages dans notre vie, des nuages qui ne sont pas nécessaires pour le moment présent. Mais chacun d'entre nous a des degrés différents, à un moment ou l'autre dans nos vies. Nous allons devoir faire face à des périodes difficiles, à des temps de tristesse, des moments d'épreuve. Et je ne dis pas ça non plus, comme je disais tantôt, pour les anticiper. Mais cette vérité-là, par contre, implique qu'on a besoin de bien comprendre pourquoi il y a des épreuves et savoir comment y faire face. Maintenant, pour revenir à Job, on est tous d'accord à dire que Job était une personne dans la parole de Dieu très éprouvée. À un moment donné dans sa vie, en un jour, il a perdu bien des choses. Il a fait face au pire, à des épreuves inimaginables. Il a perdu ses biens, son troupeau. Il a perdu ses enfants. Son corps était affligé par la maladie, un ulcère malin. Il a souffert beaucoup, beaucoup. Puis il a dû traverser tous ces moments-là aussi à côté d'une femme qui est loin d'avoir été aidante, comme il était fait référence ce matin. Même qu'elle ne lui a pas démontré beaucoup de sympathie à son égard. Mais ceci étant dit, par contre, plusieurs des commentateurs s'entendent pour dire que la personne qui a probablement fait face à la pire épreuve qu'un être humain pouvait endurer, à l'exception de Jésus, c'est Abraham. Un homme encore plus éprouvé. Puis, pour nous chacun ce soir, je pense qu'il y a des bonnes leçons à tirer de l'histoire d'Abraham, de ce qu'il a traversé comme épreuve, de son histoire, et plus particulièrement de la façon qu'il a traversé cette épreuve. Et dans Genèse, chapitre 22, si vous voulez tourner avec moi, commençons au verset 1. Genèse 22, verset 1. Il est écrit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. » Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et là, tout de suite, je vous dirais que cette demande-là de Dieu n'était pas tout à fait en accord avec ce que je pourrais dire la théologie d'Abraham ou ce qu'il comprenait ou ce qu'il connaissait de Dieu. Parce que Dieu n'avait jusqu'à ce moment-là jamais fait une demande comme ça à un de ses enfants, de demander un sacrifice humain. Oui, ça existait parmi les peuple païen, cette pratique-là existait, mais jamais dans le peuple de Dieu. En plus, Isaac, il faut dire, il y avait quelque chose de bien particulier, Isaac, puisqu'il était l'enfant de la promesse. On sait que c'est Dieu qui avait miraculeusement permis qu'Abraham et Sarah, qui étaient vieux en âge, on se rappelle, qui n'espérait plus avoir d'enfant, eh bien, c'est Dieu qui a permis qu'ils aient un enfant, justement, un fils qui fait partie, justement, des promesses de l'alliance qu'avait fait Dieu avec Abraham. Alors, pourquoi Dieu, tout à coup, demande un sacrifice humain alors qu'il n'a jamais demandé une telle chose dans le passé? C'était une chose, comme je disais tantôt, qui allait totalement à l'encontre de tout ce qu'Abraham connaissait de Dieu. Alors, pourquoi Dieu miraculeusement a permis tout à coup qu'une femme âgée, stérile, puisse donner naissance à un fils pour seulement ensuite demander son sacrifice? Pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham, après un jour lui avoir fait la promesse de faire de lui le père de plusieurs nations, pourquoi lui demande-t-il de sacrifier ce fils qu'il lui a donné? C'est assez bizarre. Parce qu'en fait, tout espoir de descendance pour Abraham provenait de cette promesse. Mais ça prenait fin à ce moment-là avec ce sacrifice-là. Puis en plus, tout ça, ça viendrait comme entacher, je dirais, la réputation de Dieu. Lui qui est connu comme étant fidèle à ses promesses. Mais ce qui fait de cette épreuve-là, l'une des pires épreuves qu'on puisse imaginer, ce n'est pas tellement le fait qu'Isaac devait mourir, mais bien plus le fait que c'est Abraham lui-même qui était sur le point de le sacrifier de ses propres mains. C'est déjà assez, entre nous, une épreuve terrible que de voir mourir un être cher. Imaginez ce que c'est de se faire demander de sacrifier cet être cher. S'il y a une chose d'inusité dans la parole de Dieu, parmi les choses que Dieu demande dans la parole de Dieu, qui mériterait un peu plus d'explications, et qui a aussi engendré beaucoup de discussions, qui en engendre encore, c'est bien cette histoire. Puis à cette demande, on s'attendrait à ce que Abraham réponde à Dieu, « Mais Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas faire ça. Pourrais-tu, s'il vous plaît, m'expliquer? » Alors, on va ensemble continuer le texte dans Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père! » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et là, le texte nous apprend une chose sur Abraham qui est importante, c'est qu'aussitôt que Dieu lui a demandé quelque chose, il a obéi sans discuter. Et il a démontré par là une foi qui est assez remarquable. Entre autres, dans le texte, lorsqu'on voit qu'il a dit à ses serviteurs que lui et son fils étaient pour revenir, et aussi en disant à son fils que Dieu était pour pouvoir lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et c'est comme si qu'Abraham savait déjà dans son cœur que Dieu allait agir fidèlement selon ses promesses, en conformité justement avec sa personne. Et le texte continue, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Je disais tantôt que c'est une foi remarquable. Puis ça nous fait penser qu'en lisant ce texte-là, c'est là pour nous aider à mieux comprendre, entre autres, à quoi ressemble justement la confiance d'Abraham, qu'Abraham avait en Dieu, et qui, dans la Bible, nous a référé comme qui lui a été, cette foi qui lui fut imputée à justice. Ici aussi, pourquoi l'apôtre Paul a parlé aussi d'Abraham comme étant le père des croyants dans Romains 4. Et dans la parole de Dieu, à l'exception encore du Seigneur Jésus, Abraham est certainement le meilleur exemple pour nous, le modèle de confiance, de soumission, d'obéissance à la volonté de Dieu. Et ça, peu importe le prix que ça lui a coûté. Il faut dire que Dieu est glorifié puis honoré d'une telle foi. Mais en même temps aussi, il faut savoir que Dieu honore une telle confiance à son égard. Et c'est ce qu'on voit dans les versets qui suivent. Dans le verset 11 du chapitre 22, il est écrit, « Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici! » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » En fait, Dieu venait de tester Abraham, de l'éprouver, et Abraham a bien passé le test. Il a obéi à Dieu. Puis, comme ça, c'est aussi possible qu'un jour ou l'autre, nous soyons appelés, comme Abraham, à être éprouvés par le biais de choses qui nous sont chères dans nos vies, chères à notre cœur, par le biais de ceux que nous aimons le plus, les donner au Seigneur. Et la démonstration de notre foi, cette démonstration-là se fera en laissant le Seigneur agir, laisser entre les mains du Seigneur. Non pas nécessairement là où on voudrait qu'il soit, parce qu'Abraham, lui, était prêt à donner Isaac, même s'il était précieux à son cœur, et Isaac, pour lui, ce n'était pas sa possession. Il ne possédait pas Abraham. Isaac lui avait été confié. Et donc, Abraham, dans ce sens-là, n'était pas possessif à l'égard de ce que Dieu lui avait confié. Au contraire, il s'en est remis totalement à la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, il était prêt, Abraham, à faire tout ce que Dieu lui demandait. Et donc, dans ce sens-là, parmi bien des épreuves, toutes les épreuves dans la vie qu'on peut être appelé à faire face, il est difficile de s'imaginer une plus grande épreuve que celle qu'Abraham a connue. Et Abraham a passé l'épreuve. Ça a pris à Abraham toute une dose d'abnégation de lui-même et la plus grande des confiances en même temps envers Dieu. Puis, justement, le fait qu'il ait passé le test, bien, c'est l'ange. L'ange lui a confirmé cela en lui disant, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Au verset 12. Abraham a obéi à Dieu, même au coût le plus élevé. Alors, dans la parole de Dieu, il y a un commentaire, justement, ailleurs dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qu'on peut retrouver au sujet de cette épreuve d'Abraham. Et ça se trouve, si vous voulez tourner avec moi, dans le Nouveau Testament. Pas nécessaire, parce que je pense que je l'ai écrit dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, chapitre 11. C'est ce passage qui va nous apprendre de plus ce qui a permis à Abraham de passer avec succès cette épreuve-là. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, Hébreux 11, 17 à 19, lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, « Tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Abraham était prêt à obéir à Dieu parce qu'il croyait en Dieu. Il croyait que Dieu avait la puissance de ressusciter les morts, même si de son vivant, il n'avait jamais vu, lui, de résurrection des morts. Il croyait que Dieu était si fidèle à sa parole et à sa personne que pour garder sa promesse, il peut aller même jusqu'à ressusciter les morts. Et ça nous enseigne que pour pouvoir surmonter les épreuves, les pires imaginables, il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Avoir confiance que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il les garde, ses promesses, et qu'il accomplit toujours son plan à lui, pour nous. Qu'il ne se trompe jamais. Et alors, c'est tout un modèle de foi qu'on a ici en Abraham. Dans Galates chapitre 3, sans tourner, est écrit, « Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Tous ceux qui vivent par la foi en Dieu sont, dans un sens spirituel, les fils et les filles d'Abraham, lui qui est le père des croyants. Alors, Dieu va permettre que nous passions des moments difficiles, des épreuves dans nos vies, mais c'est afin de ce qui va nous permettre de tenir dans l'épreuve, bien, c'est la confiance et l'amour que nous avons pour Dieu. Parce qu'il est écrit ailleurs que c'est lui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. On rêve tous au meilleur environnement possible pour nous, hein? Le confort, la tranquillité parfaite, on aime tout ça. Et même sur la terre, si on peut avoir des périodes, qu'on pourrait dire, des périodes d'accalmie, puis vivre un bon bout de temps, ce qu'on pourrait appeler une vie exempte d'épreuves, c'est malheureusement temporaire. Parce que notre vie sur terre ne sera pas exempte d'épreuves. Le roi David a d'ailleurs exprimé cette pensée-là dans les psaumes, au psaume 30, lorsqu'il avait dit « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. » Et c'est tout utopique de croire à une vie facile, sans problème, sans adversité, sans moment d'épreuve. Le Seigneur Jésus a lui-même averti ses disciples et tous ceux qui voulaient le suivre de s'attendre à avoir des tribulations, des périodes d'épreuve dans cette vie ici. Il y a un puritain nommé Thomas Manton qui a écrit un jour ceci, « Dieu a eu un fils sans péché, mais il n'a pas eu de fils sans une croix. » Donc, comme chrétiens, nous devons nous attendre à traverser des temps d'épreuve. Mais comme a écrit aussi David dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, notre sécurité comme croyants, notre réconfort, notre consolation, notre assurance, c'est la présence de Dieu à nos côtés, dans nos vies. Il ne nous laisse pas seuls dans ces moments difficiles. Maintenant, les épreuves peuvent nous arriver pour différentes raisons, aussi avec certains buts précis pour chacun de nous. Les épreuves que ça donne. Premièrement, pour éprouver la solidité de notre foi. Sans tourner dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 32, versets 30 et 31, on peut trouver une belle illustration de cela. C'est le roi Ézéchias qui avait réussi dans toutes ses entreprises, mais cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, parce qu'il faut se souvenir qu'il avait été entouré de l'armée, puis il avait vaincu l'armée. Après ça, il était guéri d'une grave maladie. Il est écrit à la suite, « Dieu l'abandonna pour l'éprouver. » Au verset 31 du chapitre 32, deuxième chronique. « Afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Vous allez tout de suite penser comme moi, mais il me semble que Dieu... Il n'y avait pas besoin de tester Ézéchias pour savoir ce qui était dans le cœur d'Ézéchias. Dieu est omniscient, il doit savoir ça. C'est vrai. Mais Dieu a permis ça pour la raison suivante. C'est pour permettre à Ézéchias de prendre connaissance de ce que lui-même avait dans son propre cœur. C'est important. Les périodes de difficulté et d'épreuves sont là des fois pour qu'on puisse faire un inventaire spirituel. Notre inventaire spirituel, pour qu'on puisse prendre conscience de notre foi, de la force ou des faiblesses de notre foi. Donc, si présentement vous traversez des épreuves et vous dites « ça n'a pas de bon sens, il me semble que ce n'est pas juste », puis vous grognez tout le temps, vous avez difficulté à accepter ça, mais vous avez besoin de passer cette épreuve-là. Vous avez besoin que votre foi soit affermie. Aussi curieux que ça puisse paraître, on devrait remercier le Seigneur pour nos épreuves, parce qu'elles nous sont utiles pour bien examiner notre foi. C'est utile parce que plus notre foi sera solide et ferme, plus on pourra être utile à Dieu. Quand Habacuc a dû faire face aux Chaldéens qui le menaçaient, qui menaçaient le peuple, de venir exterminer le peuple, vous vous souvenez, Habacuc, face à toutes sortes d'épreuves qu'il appréhendait là, lui-même, trouvait encore des raisons de se réjouir. Et dans chapitre 3 d'Habacuc, au verset 17 et 19, il est écrit, « Car le figuier, c'est Habacuc qui parle, ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Au beau milieu de problèmes comme ça, difficiles à résoudre, et à comprendre pour Habacuc, c'est-à-dire de se demander pourquoi Dieu permet des choses comme là, comme ça, que des méchants puissent continuer à venir, vouloir venir les attaquer. Il a reconnu cependant que Dieu est souverain, que Dieu est sage et juste. Et en se souvenant de ces vérités-là, il a comme été fortifié. Maintenant, pour revenir à Job, suite aux épreuves que Job a fait face, vers la fin du livre, Job, devant Dieu, a admis ceci. Il a dit dans Job 42, versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens dans la poussière et sur la cendre. » Alors Job, là, à la fin, reconnaît, ni plus ni moins, confesse son péché, c'est-à-dire d'avoir douté de la justice de Dieu vis-à-vis de tout ce qui lui arrivait, de la souveraineté de Dieu. Et puis, il a reconnu que les épreuves dans lesquelles qu'il a traversées lui ont fait découvrir certaines failles qui étaient dans sa foi. Deuxième chose, les épreuves sont là pour nous rendre ou nous garder humbles. Les épreuves sont comme là pour nous ramener un peu, c'est paradoxal, mais ramener un peu sur terre, dans le sens qu'elle peut nous servir, peut servir à ne plus ou à ne pas se croire au-dessus des autres sur le plan spirituel. Et Paul avait exprimé cette pensée-là lorsqu'il a écrit dans 2 Corinthiens 12, 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, dit Paul, à cause de l'excellence de ces révélations qu'il avait eues de Dieu, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Alors Dieu avait permis, il avait utilisé Paul. Il s'est accompli des miracles. Il avait donné à Paul de nouvelles révélations. Et tout ça aurait pu amener Paul à s'enfler la tête. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Paul. Dieu me parle, me révèle. Mais Dieu s'est servi de cette épreuve-là, cette écharde que fait mention Paul, afin que Paul reste humble et continue à dépendre de Dieu pour l'œuvre qu'il avait été appelé à accomplir. Alors, Dieu permet qu'il arrive des épreuves dans nos vies, entre autres, pour nous garder humbles, pour nous rendre humbles, pour nous garder humbles, pour nous empêcher de s'enorgueillir spirituellement, entre autres. Autre chose, pour nous détacher des choses d'en bas. Plus les années passent, on vieillit, puis on accumule toutes sortes de choses, de possessions, de cossins. On peut avoir eu du succès en affaires, dans bien des choses. Mais malgré toutes ces choses qu'on a accumulées, ces biens matériels, ces différentes commodités, ces possessions, ces choses-là, devraient avoir avec le temps, ils prennent avec le temps beaucoup moins d'importance dans la vie du chrétien que pour ceux qui sont sans Dieu. Autrefois, oui. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on peut penser que si on aurait telle chose, on serait plus heureux. Mais aujourd'hui, avec l'âge, on prend conscience que dans les moments difficiles, dans les épreuves, la maladie, etc., toutes ces choses-là, dans les moments de stress, ça peut être du burn-out, n'importe quoi que vous pouvez expérimenter, des moments d'anxiété, de blessure, dans bien d'autres problèmes de la vie, quand l'épreuve vient, tu as beau posséder toutes les richesses de la terre, ça ne fait pas de différence. Ça ne règle rien. Ce n'est pas les richesses, ce n'est pas les biens qui font la différence. Et donc, dans ce sens-là, l'épreuve, ça peut servir à nous détacher de ces choses-là du monde, en nous aidant à réaliser, finalement, que ces choses-là sont incapables de résoudre bien des choses qui sont de première importance, dans les moments, entre autres, de grand stress, par exemple. Sans tourner dans Jean 6, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Et encore là, le texte dit, il disait ça afin d'éprouver Philippe, car il savait, Jésus, ce qu'il allait faire. Et Philippe lui a répondu, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, pour l'argent qu'on a, ça ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu parmi les gens, les milliers de personnes qui étaient là. » Et dans la réponse de Philippe, justement, C'est une réponse du point de vue humain, un raisonnement humain. Parce que, en gros, par exemple, il répond que lui et les autres n'ont pas assez d'argent pour pouvoir nourrir une telle foule. Mais le texte nous montre que c'était pour l'éprouver que Jésus lui a posé cette question. Jésus voulait, autrement dit, que Philippe réalise qu'il ne regardait pas à bon endroit. Il regardait aux ressources, aux choses du monde, pour pouvoir pourvoir aux besoins et à la nourriture de ces gens, et non à Jésus. Et quand il a fait prendre conscience à Philippe de l'incapacité même des ressources qu'ils avaient, du monde, de rencontrer les besoins, ces besoins-là qu'avaient ces gens-là d'être nourris, il lui a démontré, il a continué en lui démontrant qui il était, à qui il pouvait faire confiance et à qui il pourrait, devait se tourner pour ces besoins-là. Et donc, il a amené Philippe à avoir une plus grande confiance en Jésus. Vous vous souvenez sûrement aussi de Moïse, qui avait été élevé, la Bible nous dit, dans la maison de Pharaon, comme un prince d'Égypte. Il faisait partie de la famille royale, et comme tel, il a reçu la meilleure éducation possible. Il avait atteint les plus hauts échelons de la société égyptienne, que ce soit en richesse, en possession, en honneur. Mais le texte dans Hébreux chapitre 11, verset 26, nous apprend que considérer les sacrifices qu'il a dû faire en s'identifiant au peuple de Dieu et au plan de Dieu comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Vous imaginez? Il a détourné les yeux de toutes les choses du monde, ces richesses-là, qui étaient offertes, qui était disponible pour lui, et il a commencé plutôt à regarder aux épreuves du peuple de Dieu. Et Dieu s'est servi de cette épreuve-là, ces épreuves que le peuple vivait, pour faire en sorte que Moïse se détache des plaisirs ou des trésors de l'Égypte pour s'attacher à Dieu et à son peuple. Quatrième chose, quel but pour les épreuves? Mais si c'est pour nous détacher des choses d'en bas, c'est pour mieux nous attacher aux choses d'en haut. Hein, quand on vient l'épreuve, c'est une grosse épreuve, tout à coup, on a comme plus hâte d'aller au ciel, d'aller avec le Seigneur. Et comme les épreuves devraient faire en sorte que nous devenions de plus en plus, comme on disait tantôt, désintéressés face aux choses du monde, elles peuvent aussi créer en nous un plus grand désir de se retrouver avec ceux, entre autres, que nous aimons et qui nous ont déjà quittés pour être avec le Seigneur. Si, pour vous, les personnes les plus précieuses dans votre vie sont déjà en présence du Seigneur, si vous avez déjà investi beaucoup de temps, de votre argent dans les choses éternelles, alors vous êtes sûrement beaucoup moins attaché maintenant aux choses du monde, à ce monde qui passe. Dans Romains chapitre 8, Paul a écrit ceci, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Il continue en disant, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélé pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Il continue plus loin, Romains chapitre 8, verset 23, en disant, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Donc, les épreuves ont cette particularité, c'est qu'elles font en sorte que nos affections sont de plus en plus grandes, devraient être de plus en plus grandes pour les choses d'en haut, sur les vérités de Dieu, sur les choses spirituelles. C'est ce que Paul a voulu dire aussi ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, où il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les épreuves font donc grandir en nous une affection pour ce qui est des choses éternelles. Elles redirigent nos désirs vers notre patrie céleste, celle qui compte. On pourrait se demander comment, par exemple, Paul avait acquis ce genre d'attitude, par exemple. Mais juste un peu avant, il avait écrit, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. » Paul avait, on sait, Paul a passé tellement d'épreuves difficiles, de tribulations. Ce n'est pas étonnant qu'il soit si peu attaché à ce monde et puis qu'il préférait être auprès du Seigneur, ce qui, à un moment donné, a dit, était pour lui le meilleur. Cinquièmement, les épreuves, quoi ça donne? Ça nous aide, ça nous donne, ça nous révèle ce que nous aimons vraiment. À l'exception de Dieu, il n'y a pas personne qui pourrait être plus cher au cœur d'Abraham que son fils unique, Isaac. Mais c'était ça le test. C'était ça l'épreuve. Savoir s'il aimait plus Isaac que Dieu. Et de par notre attitude, de par nos agissements dans des moments difficiles, dans les épreuves, bien, justement, ces épreuves-là vont nous révéler notre amour pour Dieu. Si nous aimons Dieu, par-dessus tout, nous serons reconnaissants pour ce qu'il a désiré accomplir dans nos vies au travers de ça. Mais si nous nous aimons plus que Dieu, nous allons nous mettre à douter de Dieu, de sa sagesse, de sa justice, et on va être beaucoup plus bouleversés et même plus amers. Et si n'importe quoi dans nos vies est plus cher, Dieu va devoir, si nous sommes vraiment ses enfants, Dieu va devoir agir afin d'enlever ce qui nous empêche de progresser spirituellement. C'est un peu ça qu'on retrouve dans Deutéronome, au chapitre 13, au verset 3, où Moïse a averti le peuple, l'Israël, au danger que représentaient les faux prophètes. Dans Deutéronome 13, verset 3, il écrit, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, qui était un faux, ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Alors, il peut arriver que le Seigneur nous éprouve afin de savoir si nous l'aimons autant que nous le disons. Car on peut audiblement louer Dieu, tandis que notre cœur peut être éloigné de lui. Alors, Jésus a dit à un moment donné, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Est-ce que désirez-vous faire la volonté de Dieu en premier, peu importe ce que les autres, y compris la famille, vont dire? Dans le cas d'Abraham, on peut voir au travers de son histoire ce que ça nous enseigne. On peut voir par son témoignage, par sa vie, de ses actions, on peut être certain qu'Abraham aimait Dieu, même plus que son propre fils Isaac. Sixièmement, les épreuves que ça donne pour nous amener à être reconnaissants. Aujourd'hui, la pensée du monde, le raisonnement du monde voudrait que nous aimons et que nous épousions la valeur du monde. Ça a toujours été comme ça. Notre raison puis nos sentiments nous amènent aussi à rechercher ça, nous amèneraient naturellement à rechercher ça. Entre autres, le monde nous dit « la vie est courte », il y a des chansons là-dessus, et qu'en conséquence, on doit profiter au maximum, peu importe le prix. Tandis que notre foi en Dieu, notre foi au Seigneur Jésus, à son amour, à sa grâce, nous amène à l'aimer, à aimer sa parole, qui est la vérité, à vouloir le connaître davantage, encore, à connaître sa volonté, parce que quelqu'un qui nous aime, c'est important de savoir ce qu'il veut dans notre vie, il nous aime. Il cherche notre bien. Et puis chercher à lui obéir parce que il veut nous bénir. Et les épreuves, donc, peuvent faire en sorte d'arriver sur le chemin de nos vies pour nous amener à prendre conscience combien on est béni de connaître Dieu. Et puis, de lui obéir, ça amène plein de bénédictions. On est béni. Nous sommes bénis lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu. Spirituellement, c'est un fait. On ne voit pas encore aux yeux humains. Nous sommes bénis de connaître Dieu. Nous sommes bénis de lui appartenir. Nous sommes bénis de connaître sa parole, de pouvoir avoir accès à connaître de plus en plus sa parole et sa volonté. David a écrit ceci dans le psaume 63, « Ta bonté vaut mieux que la vie. » Jésus est l'exemple parfait de celui qui a été béni par son obéissance. Dans Hébreux 5, sans tourner verset 7, il est écrit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Et tout ceci, c'est en référence, bien entendu, aux souffrances que Jésus a connues au jardin de Gethsémané. Ailleurs, on voit aussi le résultat de son obéissance. Il s'était humilié, il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, dit Philippiens, et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, les épreuves amènent leur lot de souffrances, mais l'obéissance dans ces moments d'épreuves-là vont inévitablement amener plein de bénédictions. Septièmement, les épreuves servent aussi pour nous équiper afin de pouvoir aider les autres. Ça arrive que si nous souffrons, que le but principal, ce soit de nous rendre capables, d'être sensibles aux autres, d'être capable d'aider d'autres à leur tour, qui à leur tour vont passer par des moments semblables. Dans Luc 22, au chapitre 22, verset 31-32, Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. J'ai prié pour toi, pour que ta foi s'affermisse, pour que tu puisses ensuite être un moyen pour affermir la foi des autres. » Dans un autre passage d'Hébreux, chapitre 4, verset 13, on apprend que Jésus peut secourir tous ceux qui s'approchent de lui parce qu'il a fait face, lui, à toutes les épreuves qu'on peut avoir expérimentées. C'est ce qui a fait de lui, entre autres, un souverain sacrificateur qui compatit à nos besoins et à nos faiblesses. Et donc, par nos épreuves, Dieu nous appelle, peut-être, à être des instruments, devenir des instruments entre ses mains pour pouvoir apporter le réconfort, l'aide à d'autres qui se trouvent aussi dans l'affliction. Huitièmement, les épreuves afin de produire en nous la patience, l'endurance et la maturité dans la foi. Et c'est le texte dans Jacques 1, 2, 4, j'ai cité tantôt. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. » Parfait, accompli sans faillir en rien, c'est la référence à la maturité comme croyant. Quelqu'un a dit que lorsqu'on expérimente des moments de calme, de tranquillité, justement, on a l'habitude de se laisser flotter et se laisser aller dans ce vent-là. Et on suit souvent plutôt notre raison, et on marche plus par notre raison, par la raison humaine que par la foi. Mais vous savez, la réelle valeur d'un soldat, là, Elle ne se démontre pas dans un temps de paix. Puis un des buts donc, que Dieu a dans, lorsqu'on traverse des épreuves, c'est de permettre qu'on puisse devenir un peu plus solide, plus ferme dans notre foi, plus endurant, persévérant. Autrement dit, quand l'épreuve arrive, nos muscles spirituels deviennent se mettre à fonctionner, deviennent plus exercés, plus solides. Tout ça dans le but de nous permettre, entre autres, qu'on puisse, avec l'aide de Dieu, par sa grâce, être plus en mesure de faire face à de plus grands ennemis, être préparé à traverser de plus grands obstacles, devenir de plus en plus utile au Seigneur. Et plus mature, plus utile on va être, plus on sera en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Tout ça pour sa propre gloire à lui. C'est, je savais que le temps est avancé, je devais terminer à 1h30, hein, c'est ça? Parce que j'avais une petite illustration. Puis je ne sais pas si je peux vous la présenter. Là. La question pour terminer, c'est la suivante. Es-tu une carotte, un œuf ou un grain de café? Il y avait une jeune fille qui se plaignait tout le temps à son père sur ce qui lui arrivait dans sa vie. Elle disait que la vie était tellement difficile pour elle. Elle ne savait vraiment pas comment elle était pour passer au travers des difficultés qu'elle rencontrait, tout ce qu'elle vivait. Elle avait même le goût de tout abandonner. Son père, savez-vous, son métier, c'était un chef cuisinier. C'est à la mode aujourd'hui, on a des programmes là-dessus tout partout. Alors, il apprend sa fille à un moment donné, il l'amène à la cuisine. Puis là, il remplit trois marmites, il remplit d'eau, puis il les met sur le rond, à la haute température, high. Un coup, rendu à l'ébullition, il met dans une marmite des carottes, dans l'autre des œufs, puis dans le dernier, des grains de café. Puis là, il les laisse bouillir tranquillement, sans dire un mot. Là, la fille se demandait bien où son père voulait en venir. Elle, qui vivait des problèmes, lui, il prépare un drôle de mix, un drôle de mélange. Ça faisait à peu près d'une demi-heure de cuisson lorsque le père a décidé d'éteindre le rond, de retirer les marmites du feu. Alors, il a commencé par retirer les carottes, les placer dans un bol. Il a fait la même chose avec les œufs. Puis avec l'aide d'une louche, il a versé le café dans un dernier bol. Puis, tout à coup, il s'est tourné vers sa fille, puis il a dit, « Chérie, qu'est-ce que tu vois? » Elle lui répond, « Ben voyons, père, je vois des carottes, des œufs, puis du café. » Son père l'amène plus près du bol, puis lui demande de toucher aux carottes. C'est ça qu'elle fait. Puis aussitôt, elle remarque que les carottes sont maintenant amolli. Il demande ensuite de prendre les œufs, les casser. Puis après avoir écalé, elle remarque que les œufs sont maintenant des œufs cuits durs. Puis pour terminer, le père lui demande de prendre une gorgée de café. Puis là, elle fronce les sourcils parce qu'en constatant tellement que le café était fort, il avait du goût. Puis, humblement, elle se met à demander à son père, « Mais qu'est-ce que tout ça veut bien dire? » Il répondit ceci, « Chacun d'entre eux ont rencontré la même adversité, de l'eau bouillante. Mais, par contre, chacun a réagi différemment. La carotte, qui au départ était ferme, dure, après avoir bouilli, est devenue amollie et faible. L'œuf, lui, qui était fragile, avec une mince coquille pour protéger son liquide, bien, après avoir bouilli, il a vu son intérieur durcir. Les grains de café, eux, étaient au début tous séparés et distincts, mais après avoir bouilli dans l'eau, ils sont devenus tous ensemble plus forts, plus riches, avec un goût recherché. Puis, tout à coup, le père, c'est là qu'il a regardé sa fille, puis il a demandé ceci, « Comme qui d'entre eux es-tu? » Dans l'adversité, dans l'épreuve, dans les difficultés, quand ça arrive dans ta vie, comment tu réagis? Es-tu une carotte, un œuf ou un grain de café? Es-tu la carotte qui semble ferme, si dure, si forte, mais lorsqu'il y a un peu d'adversité qui arrive, tu deviens tout mou, sans force, plaignard? Ou es-tu comme l'œuf, au début avec un cœur sensible, docile, mais lorsque l'épreuve arrive, tu t'endurcis, devenant froid, distant, plus difficile? Ta coquille, la même. C'est la même, ta coquille, mais ton cœur devient plus amer, plus dur intérieurement. Où es-tu comme le grain de café? Le grain de café atteint la meilleure de ses saveurs à 212 degrés Fahrenheit. Saviez-vous ça? Pas avant. Quand l'eau est à son maximum de chaleur, c'est là que le café a le meilleur goût. Alors, comment réagissez-vous dans l'adversité, dans l'épreuve? Êtes-vous une carotte, un œuf ou un grain de café? Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 verset 9, il est écrit: « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Quand les difficultés arrivent, dites-vous bien que Dieu est derrière ça. Dieu est avec nous. Et Dieu veut nous changer, nous transformer pour nous rendre à son image. Et il nous donne la force pour passer au travers. Il veut nous montrer des choses, des failles qu'on a dans notre vie. Alors, laissons-le agir dans notre vie. Et puis, qu'il ait aussi, par la suite, toute notre adoration, toute la gloire qui peut lui revenir. Soyons des grains de café, autrement dit. On va terminer par la prière. Notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui est allé, par ton amour, aller jusqu'à sacrifier ton Fils, ton unique, pour nous des pécheurs qui ne méritions pas ça. On sait que Isaac, c'est une préfiguration de ton Fils. Ton amour pour nous est allé jusqu'à sacrifier ton Fils bien-aimé, pour qu'on ne puissions te pardonner. Il a dû payer pour nos péchés, lui le juste, pour des injustes comme nous. Il a passé par des épreuves terribles, mais en toute chose, il t'a glorifié. Oui, Seigneur, on ne sait pas de quoi demain sera fait dans nos vies. On sait qu'on a besoin de marcher à tes côtés. On a besoin de sentir ta présence. On a besoin, Seigneur, de vraiment que tu nous conduises, de se laisser conduire par toi à chaque jour. Merci pour ta grâce, merci pour ton aide. Et que bénis cette assemblée. Qu'en cette semaine qui commence, Seigneur, on te demande de ce que nos pensées, nos paroles, puis nos actions, peu importe les situations dans lesquelles on va se trouver, dans les bons comme dans les mauvais temps, qu'on puisse continuer à placer notre confiance en toi, parce que tu agis pour notre bien, et te glorifier dans nos vies. Sois-en béni et honoré, au nom de Jésus. Amen. Merci.